Cours de philosophie première par le père Philippe à Saint-Jodard, le 19 janvier 1991.
Nous allons continuer dans le temps du chapitre, pas nécessairement toujours la philosophie première, et théologie naturelle, peut-être un ou deux cours d'éthique, parce que ce sera un peu trop fatigant, la métaphysique tous les jours. Alors nous étions à ce problème très délicat que la scolastique a assumé le point de vue de la subsistance. Donc après avoir inféré, découvert la substance comme principe selon la forme de ce qui est premier. Nous essayons de comprendre comment ce principe est cause dans l'ordre de l'être, cause selon la forme. C'est là où on voit très bien comment Descartes n'a pas su distinguer avec suffisamment de netteté le point de vue de la forme et le point de vue de l'efficience. Alors on a le fameux cause insoumis. C'est quand même intéressant à essayer de comprendre comment il a glissé dans cette erreur. Alors, pour bien comprendre ce passage du principe à la cause, je crois qu'il faut regarder le problème de la subsistance. Alors, ce problème de la subsistance, je vous le disais hier, n'est pas explicite chez Aristote. Mais il est présent, il ne faut pas dire qu'il n'existe pas. Dès que vous regardez le troisième katoto, c'est-à-dire comment Aristote précise les diverses manières dont on est en présence d'un lien de nécessité. Le katoto se traduit en latin « percer ». On a ce fait que l'être premier ne s'explique pas par un autre, mais qu'il subsiste. Il est par lui-même. Et quand on dit qu'il est par lui-même, on veut justement montrer qu'il est capable d'être cause. Pour Aristote, on reste à cette expression qu'il développe dans les analytiques. On voit chez Plotin le point de vue des hypostases. Et chez les théologiens, on verra comment le point de vue de la subsistance jouera un rôle très important. Je crois qu'il faut bien voir historiquement ce développement, puis ensuite on réfléchit dessus. Est-ce que c'est un problème néoplatonicien? Est-ce que c'est un problème qui est vraiment dans la réalité? Le passage du principe à la cause. C'est ça que je pose comme question. Pour que nous essayons de bien saisir ce que se représente ce problème de la subsistance. Donc, on ne peut pas nier que chez saint Thomas, ça prend une place importante. Je vous renvoyais donc au livre sur lettre, page 415. À la note première, j'ai rapporté quelques textes. On pourrait faire une petite thèse. Sur Saint Thomas, sur la subsistance des âmes. Je ne crois pas que ça existe. Ce serait intéressant. Parce que c'est sûrement un nœud. C'est pas un problème second. C'est un problème important qui, au point de vue théologique, a joué un rôle très important. Et alors, je vous rappelle ce que j'ai précisé dans ce livre sur l'être. Quant au terme subsistentia, saint Thomas rappelle qu'il correspond proprement au terme grec ousiosis. Ousiosis. Le terme substantia ousiosis. Et ça a joué un rôle très important pour le passage du grec au latin. C'est toujours des moments très difficiles. On a vu ça récemment pour la liturgie. Passage de la langue latine à la langue vulgaire. Ça a suscité des quantités de querelles. Non pas dans un concile, mais du peuple chrétien. Forcément, quand on passe d'une langue à l'autre, d'une certaine manière, il y a des problèmes qu'on ne peut pas assumer entièrement. Il y a des choses qui tombent. Parce que il y a eu toute une tradition grecque et une tradition latine. Et quand on passe au français, la tradition est beaucoup moins forte. Ou quand on passe à l'anglais, la tradition est beaucoup moins forte. Ça, c'est sûr. Et donc, forcément, on se demande si traduire consubstantiel par même nature est la même chose. Dans le credo. Alors ça a suscité à ce moment-là des querelles dignes, des querelles de concile. Après, ça se calme un peu. Parce qu'on met des textes anciens en mode que pour Saint-Augustin dit que c'est la même chose. Alors c'est difficile d'être plus catholique que saint Augustin. Ça a calmé. Mais à ce moment-là, il y a eu des levées de boucliers en disant, en traduisant comme ça, vous devenez hérétique. Parce que c'est très vite de dire qu'on devient hérétique. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est de voir que le terme subsistentia, et le terme ousiosis. Saint Thomas le dit textuellement, ça. C'est dans le livre des sentences. Donc, subsistentia, saint Thomas rappelle. Là, nous sommes en théologie. Il correspond proprement au terme ousiosis, mais a été utilisé par les latins pour traduire hypostasis. Donc, les latins, cette hérésie, mais ils ont traduit hypostasis substantia. En réalité, puisque c'est substance traduit ousia, donc en réalité substantia devrait traduire ousiosis. Et il a traduit hypostasis. Des petits détails qui ont joué un très grand rôle. Et c'est intéressant, puisque ça fait comprendre le passage d'une langue à l'autre langue. Au point de vue tradition théologique. Si saint Thomas, de fait, utilise surtout le terme concret subsistance, puisque subsistentia, c'est le terme abstrait de subsistance, blanc, blancheur. Pensez toujours à ça. Presque toujours, on a le terme abstrait, le terme concret. Subsistance, c'est le terme classique chez un Thomas. L'existant par soi. Comment traduire subsistance? Le concret, donc. C'est l'existant par soi, celui qui possède son essai. Ça signifie, hein, au-delà des mots, toujours par rapport à la substance. On a découvert la substance. Alors, il faut comprendre ce que représente cette expression qui, encore une fois, dans saint Thomas, joue un rôle important. Si de fait, saint Thomas utilise surtout le terme concret, subsistance, l'existant par soi, il se sert aussi du terme abstrait. Lorsqu'il veut s'exprimer d'une manière plus formelle, selon un mode de séparation, et désigner le constitutif formel de la réalité subsistante, ce par quoi ce quelque chose, hoc aliquid, subsiste, existe par soi. Alors il parle de la subsistentia. Ce qui est normal, quand on regarde la différence entre le concret et l'abstrait, c'est toujours le co et le quad. Ici, on est en face du co. Ici, on est en face du quad. J'ai dit ça parce que quand vous lisez saint Thomas, c'est très important de comprendre ça. Alors, comme on est appelé à lire saint Thomas, vous êtes appelé à lire saint Thomas, il faut que vous puissiez faire le passage de la philosophie que vous étudiez ici, dans la lecture de saint Thomas. Parce qu'il y a une continuité. C'est différent, puisque saint Thomas est un théologien et que nous faisons de la philosophie. Mais il y a une continuité au point de vue de la pensée. Or, le quo, c'est la blancheur. Le quad, c'est le blanc. Il faut toujours partir par rapport aux expressions les plus simples. Qu'est-ce que c'est que l'habitude que nous avons d'abstraire? On passe du blanc à la blancheur. Vous n'y pensez pas d'habitude. Et quand vous cherchez dans le dictionnaire, qu'est-ce que c'est que blancheur? Vous cherchez ce que c'est que blanc. Vous savez, on avait vu au début de l'année la différence entre le point de vue « ens » essai. Vous devez quand même un peu mieux comprendre maintenant. Ens, ce qui est, essai, ce par quoi ens est. Donc, c'est le quo, c'est-à-dire, en réalité, le principe. Ce par quoi. Ça, c'est l'exigence de l'intelligence. L'intelligence ne peut pas s'arrêter au fait brutal. L'intelligence va analyser. Vous voyez, le blanc du mur, le blanc du visage, c'est le même blanc et ce n'est pas le même blanc. Alors, blancheur exprime ce par quoi le blanc est blanc. Alors, c'est beaucoup plus grave lorsque vous arrivez à subsistance et substantia. Puisque vous faites là un passage intéressant, puisque les deux mots existent dans saint Thomas. Subsistentia, ce par quoi le subsistance subsiste. Alors ça c'est très curieux et intéressant, parce que si subsistentia était un principe, c'est le co. Il n'y aurait pas l'abstrait du co. Ceci montre que pour saint Thomas, subsistence n'est pas un principe. Donc, c'est un mode, une manière d'exister. Et là, on saisit directement, là. On coince saint Thomas. Vous ne pouvez pas, d'un principe, saisir l'abstrait du principe. Parce que le principe est déjà abstrait. La substance, c'est un principe. Vous n'avez jamais touché la substance. Puisque c'est le fruit d'une induction. Donc si c'est un principe, vous n'allez pas chercher le coût de ce principe. Blanc, vous le touchez. Blancheur, vous ne l'avez jamais vu. Subsistance, vous l'affirmez comme quelque chose qui existe. Subsistentia, c'est le quo de la subsistance. Et là, on reste au niveau du langage de saint Thomas. Comme peut-être que vous ne l'avez pas encore lu dans saint Thomas, parce que vous ne le fréquentez pas beaucoup, mais dès que vous fréquenterez saint Thomas, en théologie, tout de suite, vous trouverez ces expressions. Alors, il vaut mieux savoir ce que ça veut dire. Et souvent, les traductions ne disent pas très bien. On ne voit pas très bien ce que ça veut dire. Alors, je continue. Il se sert aussi du terme abstrait, donc subsistentia, lorsqu'il veut exprimer d'une manière plus formelle le principe, selon la forme. Selon un mode de séparation et désigner le constitutif formel de la réalité subsistante, ce par quoi ce quelque chose, en quelquide, subsiste, existe par lui-même. Subsister exprime bien une manière d'exister, une manière d'être. Subsister dit un mode déterminé d'être. Monum determinatum essendi. C'est saint Thomas qui dit ça. Un mode déterminé d'être. À savoir, en tant que quelque chose est ens per se. Ce qui est par soi. Ce qui existe par soi. Non. Dans un autre, comme l'accident. Toujours en référence, ou plus exactement, l'accident se rend référence à cela. L'accident est relatif à un autre. Au contraire, ce qui subsiste se tient par lui-même. C'est dans le décausis. Il y a cette expression, se tient par soi-même. C'est pour ça que je disais, il y a quelque chose de fondamental dans le fait de subsister. Ça se tient par soi. Le fondement se tient par soi. Et tout le reste de l'édifice se tient grâce au fondement. Si le fondement commence à s'ébranler, tout s'ébranle. Donc, c'est ce qui existe par soi. C'est fondamental. Il appartient à Dieu seul, dit saint Thomas, d'avoir pour mode propre d'être. D'être son essai subsistant. Solius otem dei, proprius modus essendi est, ut sit sum esse subsistans. Donc oui, c'est quand même très important, puisque pour saint Thomas, c'est par là que je vais caractériser ce qu'il y a de tout à fait propre à Dieu. Je reprends, il appartient à Dieu. Et à Dieu seul, d'avoir pour mode propre d'être son naissait, son exister subsistant. Dieu subsiste dans son essai. Alors quand vous affirmez ça, essayez de comprendre. Il subsiste dans son essai. Le fondement de Dieu, c'est l'essai. Alors, laisser l'exister, c'est ce qu'est ultime. En Dieu, l'alpha et l'oméga se rejoignent. Alpha et oméga, c'est métaphorique. C'est le langage. Quand on dit qu'en Dieu, l'alpha et l'oméga sont un, c'est un langage métaphorique, symbolique. Traduisez ça en métaphysique. Vous dites en Dieu, l'essai subsiste. En dehors de Dieu, l'alpha et l'oméga ne sont jamais identiques. En Dieu, l'alpha et l'oméga ne font qu'un. J'exprime ça en métaphysique en disant Dieu est l'ipsum. Esse subsistens. Alors, si on a un peu le sens métaphysique, je vois très bien comment je passe d'un langage symbolique à un langage réel. D'un côté, analogie métaphorique, de l'autre côté, analogie propre. Dieu, c'est l'ipsum esse subsistens. Et dans l'écriture, on dira Dieu est l'alpha et l'oméga. C'est peut-être là où vous voyez les deux modes de langage s'affronter. Et vous voyez que pour faire cela, j'emploie le point de vue subsistance. C'est donc capital de comprendre ce que c'est. Puisque c'est l'expression, pour saint Thomas, la plus pure dans le langage pour exprimer ce que c'est Dieu. C'est sa simplicité. Par là, j'exprime que Dieu est absolument saint. La simplicité de Dieu. Et c'est la première manière que j'exprime l'existence de Dieu, la manière dont Dieu existe. Il existe dans cette simplicité absolue. Et Dieu seul existe dans sa simplicité. Nous sommes des êtres complexes, terriblement complexes. C'est pour ça que à certaines personnes on plaît, à d'autres personnes, on ne plaît pas. Profondément. Dieu plaît à tout le monde. Vous allez dire, ah non, puisqu'il y a des athées. Ah oui, mais ils n'ont pas compris. C'est l'ignorance, pas la sainte ignorance, mais l'ignorance brutale. C'est pour ça que l'Écriture dit incipiens. C'est l'insensé qui dit que Dieu n'existe pas. Dieu existe dans sa simplicité. C'est pour ça que je ne peux que le contempler. On ne peut avoir qu'un regard contemplatif à l'égard de Dieu. Je ne peux pas analyser Dieu. Donc je prends ça, c'est pour vous montrer que dans saint Thomas, le terme, l'expression subsistance est capitale. Et quand saint Thomas rejoint subsistance et esse, il est à la fine pointe de l'affirmation la plus forte de toute la somme. Dieu est l'ipsum esse subsistens. Il est absolument simple. Donc, subsister signifie une manière autonome d'être, ce qui implique une certaine perfection, un certain achèvement dans l'ordre de l'être. Ce que je vous disais hier, l'autarcie, un mot qu'Aristote aime tellement. L'autarcie, c'est-à-dire être complètement indépendant, se suffire à soi. L'autarcie dans l'être, c'est la subsistance. Je subsiste en moi-même. Je suis absolument indépendant des autres. L'autarcie politique, l'Angleterre, qui a toujours eu ce souci énorme d'être séparé du continent, l'autarcie. Ça joue un rôle très très grand. Alors c'est intéressant de voir le fondement métaphysique, la subsistance. C'est pour ça que je disais le fondement. Parce que c'est à partir du fondement que j'acquiers cette autarcie, cette indépendance. Et une fois que je l'ai, j'y tiens beaucoup. Et quand j'y tiens trop, je tombe dans le pharisaïsme. Parce que le pharisien, c'est celui qui se sépare des autres, avec un regard méprisant vis-à-vis des autres. Les pauvres, ils sont dans le continent. Nous, nous sommes dans notre autarcie. Complètement indépendants. Nous subsistons par nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin des autres. Mais l'exemple d'aujourd'hui, mais c'est très intéressant de comprendre ces choses-là jusque dans la répercussion humaine et politique. Israël est attaqué. Les États-Unis répondent. Répondez pas. C'est nous qui répondrons. Israël répond, c'est la plus grande humiliation que vous nous faites. Nous sommes incapables de répondre. Oui, l'autarcie est touchée. Alors quand ça touche l'être, c'est quand même. Il faut comprendre ce que c'est que l'autonomie. Oui, au plan psychologique, ça revient constamment, ça. Puisque ça fait partie. Vous avez bien, au point de vue psychologique, un des caractères de la personne. Les trois dimensions de la personne, au point de vue psychologique. C'est l'autonomie, la valorisation et la sécurité. Et l'autonomie est fondamentale puisque c'est l'aspect actuel, présent. Alors, comment traduire ça? Plus exactement, comment cela correspond à une donnée métaphysique? À une réalité métaphysique, la subsistance. Je pourrais continuer de vous citer une quantité de textes de saint Thomas. Je vais quand même prendre encore ce point de vue-là. Subsister implique un retour sur l'essence. Revenir vers son essence n'est autre que le subsister de la réalité elle-même. Je prends ce texte. Dans saint Thomas, retiré ad essentiam, ça vient du de causis, historiquement. Ça vient du de causis, proposition 15. Omniscience sit essentiam suam, ergo est retiens ad essentiam suam, retitiane completa. Alors je traduis pour que vous compreniez. Tout savant, tout science, tout celui qui sait, tous ceux qui savent, il sait son essence, shit essentia. Donc, il est retiens, il est celui qui retourne vers son essence selon un retour parfait. C'est très curieux cette idée-là. Alors cette idée-là vient des néoplatoniciens, du de causis. Saint Thomas l'assume, carrément, pour expliquer ce que c'est que subsister. Subsister implique ce retour sur soi. C'est pour ça que je vous disais hier, ça implique cet aspect du fondement. Le fondement, c'est ce qui est capable de se replier sur soi. Et il replie sur soi pour avoir son autonomie. Quand vous n'avez pas ce retour sur vous-même, vous n'avez pas d'autonomie. Alors ça se traduira en philosophie contemporaine par la conscience. La conscience implique ce retour sur soi. Quand je suis conscient de mon acte, ça implique ce retour sur soi. Donc ça implique ce qui est dit ici, omniscience, shit essentiam suam. C'est vrai. Je ne connais parfaitement quelque chose que quand j'en ai conscience. Qu'est-ce que c'est que la conscience? C'est un retour sur soi. Et un retour sur soi dans ce qu'il y a de plus essentiel. Alors j'ai conscience. Donc, subsister implique un retour vers l'essence. Revenir vers son essence n'est autre que le subsistéré de la réalité elle-même. Ceci, c'est une petite saveur néoplatonicienne. C'est important de comprendre ça, un petit coup néoplatonicien. Et voyez tout de suite pourquoi, j'espère. Rétéré ad essentiam. Est-ce que c'est vraiment le retour à l'essence ou au contraire, est-ce que ce n'est pas retour de l'exister vers l'essence? Alors c'est un retour vers l'essence, mais un retour de l'essai. L'ipsum esse subsistens. Subsister, c'est être autonome dans son être. Donc, dans son exister. Pas dans son essence, mais dans son exister. Donc, c'est le retour de l'exister à sa source. Il s'agit, précise saint Thomas, d'un modus oquendi. Ça, c'est très intéressant. C'est saint Thomas qui fait la petite critique par rapport au néoplatonisme. Il s'agit, précise saint Thomas, d'un modus oquendi. Saint Thomas fait une distinction entre cet état métaphysique d'une forme qui a en elle-même l'essai, qui subsiste en elle-même, possédant sa capacité de revenir en elle-même, retirée in se ipsam, et l'état de la forme qui perfectionne la manière en lui donnant, pardon. Donc saint Thomas précise l'état métaphysique d'une forme et l'état de la forme qui perfectionne la matière en lui donnant l'essai et qui d'une certaine manière se répand en celle-ci. C'est subtil, mais l'origine est néoplatonicienne. La forme qui informe se répand dans la matière. Et se répandant dans la matière, elle n'a plus la même vigueur. Et donc, il y a ce retour vers elle-même pour montrer qu'elle subsiste en elle. Et saint Thomas nous dit que c'est un modus loquendi. Donc, c'est métaphorique. Quand on parle du retour sur soi, c'est métaphorique. Ce n'est pas la réalité existante au plan métaphysique. C'est parce que j'ai ce schème d'une forme qui informe la matière. Donc elle se répand dans la matière. Et en se répandant dans la matière, elle perd ce qu'il y a de premier en elle. Elle est dans son effet. Quelle est la causalité de la forme? La causalité de la forme, c'est d'informer la matière. Donc, elle n'est plus dans son état premier. Dans son état premier, elle est capable de causer. Mais quand elle exerce sa causalité, elle se répand dans la matière. Elle informe la matière. Alors, pour montrer que la forme substantielle, en informant la matière, ne perd pas sa qualité de principe, on dit qu'elle subsiste. Et c'est le retour vers l'essence. Oui, c'est un peu subtil, hein. Mais c'est très intéressant. Et c'est très intéressant de voir comment saint Thomas, là, corrige le néoplatonisme. La correction permanente de saint Thomas par rapport au néoplatonisme, c'est de montrer que le néoplatonisme confond le modus loquendi et le modus existendi. Autrement dit, que le néoplatonisme confond ma manière de parler à la manière d'être. Et la purification que saint Thomas fait par rapport au néoplatonisme, c'est toujours de cerner le problème, de montrer comment le néoplatonisme confond la manière de connaître et la réalité. Alors c'est très intéressant de voir ici la correction faite à Thomas. Je vais vous l'expliquer pour que vous compreniez bien, parce que je comprends que c'est assez subtil. C'est quand même très très intéressant. Parce qu'on met du temps à comprendre ça. On voit ça dans Saint Thomas couramment. Donc, nous revenons au couple matière-forme. Qui, au dire de Gilson, est une distinction absolument fondamentale dans Aristote, tellement fondamentale qu'elle est la distinction première. Ce que je ne suis pas d'accord, c'est l'alpha de la philosophie. La distinction matière et première. Première distinction que, de fait, le philosophe fait à partir de l'œuvre d'art. Dans toute œuvre d'art, je distingue matière et forme. À moins d'être un imbécile, je peux faire cette distinction. Et Aristote le dit, on peut faire cette distinction parce que elle implique une séparation. Je peux regarder le cercle dans le bois. C'est pour ça que je mets que c'est l'alpha. Dans le bois, dans le fer, dans l'airain. Et c'est toujours le cercle. La matière change et la forme reste la même. C'est la première distinction entre matière et forme. Faut tout le temps venir là, hein. Première analogie. Très simple. Il faut vraiment être un imbécile. Quand je vois le cercle dans le bois, quand je le retrouve dans l'airain, faut dire, ah non, c'est plus un cercle. Parce que d'un côté c'est du bois, et d'autre côté c'est l'airain. Je dis, oh, mais espèce d'imbécile. La matière a changé. Mais la forme est la même. Déjà quelque chose à dire ça. Quand vous êtes arrivé à cette distinction-là, dites-vous que vous êtes arrivé au fondement de toute la philosophie aristotélicienne. C'est déjà quelque chose. Première distinction, matière et forme. Et vous dites que la forme, vous dites ça, que la forme est principe. Vas-y ça constamment, par rapport à la matière. La forme est première, la matière est seconde. C'est sûr que la forme joue par rapport à la matière un rôle de détermination. La forme informe la matière, elle détermine la matière. Quand la forme détermine la matière, et informe la matière, elle joue un rôle de cause. La causalité propre de la forme, c'est d'informer. C'est de déterminer. Elle détermine la matière. Elle enlève à la matière son indétermination. Et donc, elle est cause de la matière. Quelle différence y a-t-il entre le principe et la cause ? La forme est principe, la forme est cause. Quand je dis qu'elle est principe, je dis que c'est elle qui me permet de connaître la matière. Elle est première dans l'ordre de l'intelligibilité. Mais comme cette intelligibilité est réelle, ce principe est en même temps cause. Elle est cause, ça va de soi, comme une forme. Je ne dis pas qu'elle est cause selon la forme, puisque c'est la forme qui cause. Donc c'est vraiment le prototype de la causalité formelle. La forme informe la matière. Donc elle cause en informant la matière. En informant la matière, elle s'étend dans la matière. C'est bien évident. Vous voyez cette statue que vous voyez tous les jours. Tous les jours penser pieusement n'est-ce pas, à la forme et à la matière. Et quand la statue existe, la forme est présente dans toute la matière. Vous voyez, si on avait laissé un petit soc brutal, vous diriez la forme reste jusque-là. C'est la forme de la statue, puis un petit soc. Là, c'est autre chose, c'est plus la même forme. Tandis que pour toute la statue, c'est la même forme. La forme informe entièrement la matière. Parce que cette statue possède une unité. Donc, elle informe pleinement. Quand la forme s'étend dans la matière, elle est diluée dans la matière. La forme qui, en elle-même, comme principe, est indivisible, par la matière devient divisible. C'est vrai, elle est divisible par la matière. Je peux couper. Tandis que la forme, je ne peux pas la couper. Elle est indivisible. Donc, elle perd son indivisibilité. Si cette forme, pourtant, est cause, en tant que cause, elle subsiste. Le rétéré, le retour à l'essence, à la forme, pour exprimer qu'elle subsiste. En réalité, cette forme de la statue ne subsiste que dans l'esprit de l'artiste. L'idée. L'idéa. Puisque cette forme est cause grâce à l'artiste. Alors elle subsiste dans l'esprit d'artiste. Voyez ce que c'est que subsister? C'est le rétérer vers le principe. C'est le retour vers le principe pour montrer qu'elle subsiste. Après avoir vu la causalité de cette forme, donc l'aspect existentiel, puisque la causalité est toujours existentielle, tandis que le principe n'est pas toujours existentiel. Après avoir vu l'aspect existentiel de cette cause, je retourne au principe. Et je vois que cette forme subsiste dans l'esprit de l'artiste. C'est l'idéal. Voyez, là vous voyez de manière très précise, et c'est du saint Thomas tout pur, ça, ce que je vous dis là. Mais on ne le voit pas du tout d'habitude. La scolastique a laissé tomber ça. Alors que c'est capital, puisque c'est le passage du principe à la causalité. On répète ça tout le temps, mais on ne voit pas ce que c'est. Le fait qu'une forme est capable de subsister dans l'intelligence de l'artiste, ou en elle-même, peu importe, elle est cause. Donc le subsistere exprime la capacité d'être cause. Alors cela, le philosophe doit le comprendre. Autrement, je répéterai ça dans saint Thomas sans rien comprendre du tout. C'est ce que je voulais vous faire comprendre. Que la substance est principe et qu'elle est cause. Et pour pouvoir dire que la substance est cause, il faut voir que cette substance subsiste en elle-même. Donc d'une certaine manière, voyez, c'est bien le rétérer vers le principe de l'exister.